Vous écoutez, on lit pour vous.
Le malaise des compliments. Un texte de Florence Dencausse, paru le 20 avril 2025 dans la presse. Les compliments peuvent nous mettre dans tous nos états. En recevoir peut être inconfortable, tout comme en donner. Pourtant, les études le prouvent, ces actes de gentillesse sont bénéfiques pour nous et pour la société. Pourquoi recevoir un compliment nous rend-il mal à l'aise? Une personne vous complimente et vous ressentez un malaise. Vous rejetez tout de suite la gentille remarque ou vous attribuez le mérite à d'autres. Mais pourquoi est-ce difficile d'accepter les compliments? Plusieurs facteurs expliquent nos sentiments ambivalents, indiquent les experts interrogés par la presse. Quelques recherches se sont intéressées au niveau d'acceptation des compliments, en s'attardant particulièrement aux différences entre nationalités. Par exemple, au Japon, 45% des compliments analysés dans une étude de 2022 de l'Université de Keio à Tokyo ont donné lieu à une réponse négative, alors que c'est plutôt 12% pour les Sud-Africains dans une autre étude de 2024. Christopher Littlefield, un chercheur américain spécialisé en culture d'entreprise, a interrogé en 2008 plus de 400 Américains sur les marques de reconnaissance. Bien que la première chose que les gens ressentent est le sentiment de valorisation, 88%, près de 70% d'entre eux éprouvent de l'inconfort. Selon lui, la réception d'un compliment génère souvent une surprise. On peut figer, être pris au dépourvu et ne pas savoir comment répondre, ce qui occasionne de la gêne. Une autre explication serait le syndrome de l'imposteur, relève le neuropsychologue Mathieu M. Blanchet. Ça nous met sur un piédestal, dit-il. Si je n'ai pas l'impression que je mérite le compliment ou que je ne serai pas capable de maintenir ces attentes-là, je vais rapidement essayer de le minimiser. Ce syndrome est plus présent si notre estime de soi est basse, parce que ça ne concorde pas tout à fait avec notre récit interne. Une personne avec une meilleure estime de soi est plus apte à faire une évaluation juste de la situation, souligne Mathieu M. Blanchet. La personne peut se dire « J'étais bon aujourd'hui, mais ça se peut que je ne réussisse pas aussi bien la prochaine fois, et ce n'est pas grave », illustre-t-il. Selon une étude ontarienne de l'Université de Waterloo, parue dans le « Journal of Experimental Social Psychology », en 2017, les compliments créent plutôt de l'anxiété chez les personnes avec une faible estime de soi. Les compliments remettent en question leur vision d'elles-mêmes, qui serait négative, et leur donnent l'impression d'être incomprises. Nous pouvons ressentir un inconfort plus grand encore si le compliment nous est adressé lorsque nous sommes en public. Ça peut mettre mal à l'aise parce qu'on peut appréhender la réaction des autres, concède la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. On ne veut pas susciter de jalousie ou d'envie. Surtout que paraître imbu de soi-même est souvent mal vu dans la société, ajoute-t-elle. Plusieurs ont aussi été éduqués à ne pas se mettre de l'avant, que ce soit par les parents, au niveau religieux ou culturel. Ce trait serait plus marqué chez les femmes. On a pu nous apprendre à être humble en tant que femme, parce que d'une certaine façon, recevoir un compliment, c'est aussi affirmer notre fierté qu'on fait bien les choses, suggère Geneviève Beaulieu-Pelletier. D'après une étude américaine, publiée dans Language and Society, mais qui date déjà de 35 ans, seuls 22% des compliments faits par une femme à une autre ont été acceptés, reconnus ou approuvés comme tels, et 40% des compliments faits par un homme à une femme l'ont été. Pour Lisanne Moses, étudiante au doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, qui s'intéresse aux interactions sociales, les femmes sont plutôt habituées à se faire critiquer. Se faire complimenter peut créer une dissonance cognitive, puisque ça fait sortir de sa zone de confort, relève-t-elle. Nous aider à grandir. C'est un consensus parmi les experts. Les compliments sont essentiels dans le développement des enfants. On a besoin du regard de l'autre quand on grandit, souligne Geneviève Beaulieu-Pelletier. C'est comme ça qu'on se construit. Selon la psychologue, en tant qu'adulte, nous oublions le pouvoir de ces remarques bienveillantes sur nous-mêmes. Les compliments permettent de se sentir reconnu, valorisé et de continuer à se développer, explique-t-elle. Les compliments sincères ont également un effet de récompense sur le cerveau de celui qu'il reçoit, a démontré une étude japonaise. Quand on rejette le compliment, dit la psychologue, il ne peut pas se déposer en nous et nous aider dans notre vie. Ces attentions de la part des autres sont aussi importantes au travail et au fil de notre carrière, ajoute Mathieu M. Blanchet. La paye, ce n'est pas nécessairement ça qui est valorisant, dit-il. On recherche une reconnaissance de nos employeurs et ça peut venir de compliments. Comment accepter les compliments? Se préparer. Parfois, ce qui nous gêne, c'est de ne pas trouver les bons mots, précise Geneviève Beaulieu-Pelletier. On peut donc réfléchir d'avance à une formulation assez simple. « Ça me fait plaisir à entendre » ou « merci de me les transmettre » ou un simple « merci » sont quelques idées de réponse, propose-t-elle. Vivre le malaise. On se familiarise avec l'émotion ou l'état physique dans lequel ça nous met, indique Lisanne Moses. Et on n'en fait pas tout un plat, s'exclame-t-elle. On freine notre tendance à essayer de diminuer nos réussites et à retourner le compliment, ajoute Mathieu M. Blanchet. On peut aussi carrément faire part de notre inconfort à la personne, conseille Geneviève Beaulieu-Pelletier. Focaliser sur l'autre personne. Un compliment nous met sous les projecteurs, mais nous pouvons les tourner vers notre interlocuteur. L'autre est en train de m'offrir une information précieuse, indique la psychologue. Et celle-ci a eu le courage de nous la dire, ajoute Lisanne Moses. Allez plus en profondeur. C'est sûr que juste l'accepter, ce n'est pas ça la panacée, met en garde Mathieu M. Blanchet. Il faut faire le travail de savoir pourquoi tu es mal à l'aise de les accepter. Ça passe peut-être par mettre des efforts à développer une meilleure estime de nous-mêmes et à ne pas viser à tout prix la perfection, indique-t-il. La gêne de donner des compliments. Un inconfort peut se présenter au moment de donner des compliments, surtout à des inconnus. Certaines personnes s'abstiennent ainsi d'en offrir au détriment d'une société plus solidaire, croient les experts. On s'expose en complimentant quelqu'un et on peut se faire rejeter, explique le neuropsychologue Mathieu M. Blanchet. On se dit « il doit déjà le savoir » ou même « il va penser que je veux le crouser, le manipuler, que je fais ça pour un gain. » L'exercice peut être plus simple avec des proches. Mais il s'avère particulièrement anxiogène avec des inconnus, relève une étude américaine de 2020 de l'Université de Pennsylvanie et de l'Université Cornell. Lors de l'étude, les chercheuses ont demandé aux participants de faire un commentaire spécifique, par exemple, « J'aime ta chemise » à la quatrième personne qu'il voyait. Systématiquement, les gens surestimaient l'inconfort ressenti par celui qui recevait le compliment. Selon les chercheuses, si l'anticipation d'une interaction avec un étranger provoque de l'anxiété, ce sentiment peut avoir un impact sur l'estimation du risque. On s'évalue nous-mêmes à travers notre compétence à bien articuler notre remarque, alors que les gens évaluent plutôt notre convivialité, explique la doctorante en psychologie Lisanne Moses. On s'abstient de donner des compliments parce qu'on sous-estime systématiquement à quel point ils vont être appréciés, dit-elle. Et l'étude a aussi évalué si les participants s'abstenaient par comparaison sociale, ressentaient-ils de la jalousie en donnant un compliment, mais les résultats infirmaient cette hypothèse. Lisanne Moses s'est elle-même donné le défi de donner davantage de compliments à ses proches, à des connaissances plus éloignées, mais aussi à des inconnus. Avoir une peur non fondée de la réaction des gens, c'est comme un cercle vicieux que je me force à briser, et ça fonctionne, souligne-t-elle. Je le vis, le malaise de me dire « je le fais, je ne le fais pas », et je fonce quand même. La personne est toujours plus contente qu'on le pense. Un autre frein peut être l'impression d'établir une connexion un peu trop intime avec une personne qu'on ne connaît pas beaucoup, explique la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. On peut avoir peur d'avoir l'air trop envahissant, dit-elle, mais en trouvant les bons mots et le bon contexte, une gentille remarque est la bienvenue, rappelle-t-elle. Quand c'est sincère, on devrait le dire, s'exclame pour sa part Mathieu M. Blanchet. Il n'y a pas de contre-indication, oui, ça fait du bien, ça prouve notre reconnaissance, ça crée des liens. Se rappeler l'importance des compliments. Justement, les compliments ont une fonction prosociale, affirme Lisanne Moses, c'est pour aller vers les autres. Donner un compliment, ça permet d'alimenter et de nourrir une relation, ajoute la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. C'est une façon de dire « je t'apprécie ». Les chercheuses des universités de Pennsylvanie et Cornell ont aussi constaté que les compliments augmentent le bien-être autant de ceux qui les expriment que de ceux qui les reçoivent. Lisanne Moses croit que les compliments devraient être réhabilités dans notre société et vus comme une façon de se connecter aux autres. En acceptant un compliment, on donne une belle expérience pour la personne qui l'a offert et ça va l'encourager à en donner d'autres dans l'avenir, s'enthousiasme-t-elle. Les compliments peuvent devenir des phares pour nous-mêmes, quelque chose auquel on peut se référer et y retourner, philosophe Geneviève Beaulieu-Pelletier. On ne doit donc pas sous-estimer ses effets sur nous, dit-elle, et sur les autres. C'était « Le malaise des compliments », un texte de Florence Dancause, paru le 20 avril 2025 dans La Presse.
Fouille à la frontière américaine. Quoi faire avec ces appareils techno? Un texte de Maxime Johnson, paru le 4 avril 2025 dans Protégez-vous. Longs interrogatoires, réseaux sociaux passés au peigne fin, accès refusé à l'aéroport, détention, plusieurs cas de passage problématiques aux douanes américaines ont été rapportés dans les médias ces dernières semaines. Si vous prévoyez aller aux États-Unis prochainement, voici ce qu'il faut savoir en ce qui concerne vos appareils électroniques. Évidemment, les cas qui ont fait la manchette, comme ceux d'une actrice canadienne, d'un groupe punk britannique, d'un chercheur français et d'un compositeur et chef d'orchestre cri, représente plus l'exception que la règle. Sur le million de visiteurs qui arrivent quotidiennement aux États-Unis, la très grande majorité est acceptée sans anicroche. N'empêche, les risques de se voir refuser l'accès aux États-Unis sont bien réels, surtout pour les résidents non citoyens ou ceux dotés d'un permis de travail. Et dans tous les cas, vos appareils électroniques, comme votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, risquent d'être fouillés. Les douaniers ont beaucoup de droits. Comme le rappelle l'Organisation de protection des libertés sur Internet Electronic Frontier Foundation, EFF, dans un document sur le sujet, citation, « Si on compare avec les policiers et les personnes à l'intérieur du pays, les agents frontaliers ont plus de pouvoir et les gens qui traversent la frontière ont moins droit au respect de leur vie privée. » Fin de citation. L'un de ces pouvoirs, vous demander votre mot de passe, ouvrir vos appareils électroniques pour en parcourir les contenus et même, dans certains cas, saisir les appareils. Les agents peuvent le faire en cas de doute sur ce qu'ils vont y trouver ou lors d'une simple fouille aléatoire. Lorsqu'ils accèdent à vos appareils, les douaniers sont toutefois limités aux informations qui s'y trouvent. Ils ne peuvent pas consulter celles enregistrées dans des services en ligne. Décidez à l'avance si vous acceptez de remettre vos appareils. Les douaniers ne fouilleront probablement pas vos appareils. Vous êtes néanmoins peut-être plus exposé à ce risque que d'autres personnes, selon votre état par rapport à l'immigration américaine, les pays que vous avez visités, vos antécédents judiciaires et votre citoyenneté, par exemple. Décidez à l'avance si vous comptez coopérer à une demande d'un douanier d'ouvrir vos appareils. Ne pas le faire comporte évidemment des risques, comme celui de vous faire refuser l'entrée aux États-Unis, de vous faire confisquer vos bidules électroniques ou d'être retardé dans votre voyage. Vous devez considérer plusieurs facteurs pour prendre cette décision. Vos appareils contiennent-ils des informations sensibles? Avez-vous absolument besoin de votre téléphone ou de votre ordinateur en voyage? Êtes-vous prêt à annuler votre départ pour une question de principe? Si vous voyagez avec un téléphone ou un ordinateur qui appartient à un employeur, consultez ce dernier au préalable pour connaître la politique de l'entreprise à ce sujet. Quoi faire si vous ne voulez pas remettre vos appareils? Si vous choisissez de ne pas remettre volontairement vos appareils si on vous les demande, voyagez plutôt avec un téléphone ou un ordinateur secondaire, comme un ancien modèle qui ne contient aucune information importante et que vous pouvez vous faire confisquer sans que cela soit trop problématique. Vous n'aurez qu'à réinstaller les applications sensibles ou les documents dont vous avez besoin une fois passé la douane. Si vous utilisez une application d'authentification à deux facteurs pour protéger vos comptes en ligne, ce qui est souhaitable, n'oubliez pas de l'installer sur votre appareil secondaire avant votre départ pour pouvoir accéder à vos différents services une fois que vous serez aux États-Unis. Si vous vous présentez tout de même à la frontière avec vos appareils principaux, sans avoir l'intention de les remettre s'ils vous sont demandés, vous pouvez mieux les protéger en désactivant au préalable la reconnaissance faciale ou par empreinte digitale. Le douanier ne pourra pas les tourner vers vous pour en forcer l'ouverture et en vous assurant qu'ils sont protégés par un mot de passe complexe et que les données sont chiffrées. Consultez la marche à suivre sur Windows et sur macOS pour vérifier si les informations qui s'y trouvent sont bel et bien chiffrées. Les téléphones Android et iOS sont tous chiffrés par défaut depuis plusieurs années si vous utilisez un mot de passe. Finalement, éteignez vos appareils avant de passer la frontière, ce qui complique l'extraction de leurs données s'ils sont confisqués. Tous ces préparatifs devraient rendre plus difficile l'accès à vos appareils contre votre gré, notamment dans le cas d'une fouille plus poussée. Préparez vos appareils à remettre. Les personnes qui prévoient coopérer à une demande de fouille peuvent aussi préparer leurs appareils pour réduire les risques. L'EFF recommande de vous assurer que vos données sensibles, les informations confidentielles liées à votre travail, par exemple, sont enregistrées en ligne seulement et qu'elles ne sont pas directement accessibles sur votre téléphone ou votre ordinateur lorsque celui-ci est en mode avion. Assurez-vous bien sûr aussi que votre appareil ne contient rien d'illégal, en effaçant par exemple au préalable des textos compromettants. Ouvrez les corbeilles pour vérifier que ce que vous aviez effacé n'y est pas stocké temporairement. Sur le bureau Windows, par exemple, ou même dans certaines applications mobiles, comme Google Photos. Si une application est sauvegardée dans le nuage, comme Messenger, et que vous préférez préserver votre intimité, vous pouvez aussi choisir de l'effacer de votre téléphone le temps de passer la douane. Et les réseaux sociaux? Notez que l'EFF ne suggère pas spécifiquement d'effectuer le ménage de vos réseaux sociaux. Si vous ne faites que visiter les États-Unis, il y a peu de risques que vos messages anti-Trump sur Blue Sky vous empêchent d'entrer au pays. Si vous préférez redoubler de prudence, vous pouvez néanmoins modifier temporairement les paramètres de vos comptes avant de passer la frontière pour que leur contenu ne soit visible que par vos amis et vous en déconnecter sur tous vos appareils afin que les douaniers ne puissent y accéder en cas de fouille. C'était « Fouille à la frontière américaine. Quoi faire avec ces appareils techno ?» Un texte de Maxime Johnson, paru le 4 avril 2025 dans « Protégez-vous ».
Ces auteurs qui tiennent la route, Yaroslav Hašek, un texte d'Alexandra Guimond, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. L'hymne à la bière et à l'anarchie. En 1883, Franz Kafka et Yaroslav Hašek naissaient à quelques mois d'intervalle. Bien que tous deux partagent la ville de Prague comme socle de leur existence, les différences stylistiques qui les opposent illustrent parfaitement le foisonnement artistique de l'époque. Si Kafka écrit en allemand, la langue des affaires et de l'administration, Hašek utilise plutôt le tchèque pour être au plus près de la langue du peuple. Il veut toucher le plus grand nombre et faire de la littérature un divertissement populaire. Et si l'œuvre sombre de Kafka n'est plus à présenter, celle satirique de Hašek demeure trop souvent méconnue à l'international. Pourtant, sa critique acerbe du pouvoir, qu'il soit politique, militaire ou religieux, résonne toujours aujourd'hui. Ce gros buveur de Pilsner et fidèle acolyte des tavernes pragoises a su rendre compte, avec une hilarante lucidité, de la folle dérive des superpuissances de son temps. Celui devenu un véritable auteur culte en Tchéquie voit son personnage du Soldatsvajk bien ancré dans la culture du pays et continuera de marquer les générations futures. Il lui est indissociable, comme la mousse qui trône sur un verre de bière. Lui-même enrôlé dans l'armée autrichienne en 1915, avec le 91e régiment d'infanterie, Hašek a connu l'expérience traumatisante de la Grande Guerre et l'horreur des tranchées. Il rejoint en même temps les rangs des forces tchécoslovaques formées en Russie pour finalement se rallier à l'armée rouge. Ses différentes allégeances et ses infidélités, très souvent attaquées par ses pairs, on fait de lui un libre penseur à la conscience aiguisée, capable de saisir les complexités géopolitiques du XXe siècle. Il raconte, d'ailleurs, dans son récit « Aventure dans l'armée rouge », édition La Baconnière, qu'on juge autobiographique, l'absurdité du milieu militaire et la confusion hiérarchique du pouvoir révolutionnaire. Le texte, initialement publié en 1921 dans la presse tchèque, s'ouvre sur un imbroglio tellement représentatif de son humour. Lorsque le soviet militaire révolutionnaire du groupe Rive Gauche à Simbirsk m'annonça, vers le début d'octobre 1918, que j'étais nommé gouverneur militaire de la ville de Bougoulma, je demandai au président Kayourov: « Et êtes-vous sûr que la ville de Bougoulma est entre nos mains ?» Dans ce livre, Hašek montre les abus de l'armée rouge qui, au final, perpétue les mêmes terribles violences que le régime autocratique des tsars. Le métier de journaliste et l'expérience militaire lui ont permis de tirer un maximum d'inspiration pour composer son œuvre majeure, « Les aventures du brave Soldatsvajk ». Folio. Souvent perçue comme une suite de romans vulgaires, cette série à la bouffonnerie intelligente est plutôt un réquisitoire contre l'Empire austro-hongrois. L'écrivain a voulu y ridiculiser les grandes idées selon lesquelles il devenait apparemment concevable de prendre les armes. Le premier tome des aventures du brave Soldatsvajk s'ouvre sur l'assassinat de François Ferdinand, le 28 juin 1914, à Sarajevo. En début de chapitre, quand Zweig apprend par sa logeuse la mort de l'archiduc, il fait fi de ne pas reconnaître l'héritier de l'Empire austro-hongrois. Est-ce le droguiste ou celui qui ramasse les crottes de chiens. Les rumeurs d'une guerre imminente circulent avec avidité et les détectives au service du vieil empire s'évertuent à épingler les supposés traîtres. Dans les tavernes avoisinantes, les agents du régime, habillés en civil, scrutent et manipulent les paroles des buveurs de bière pour arriver à leur fin. Parmi eux se trouve Zweig, et c'est là, au cœur de la brasserie Le Calice, que commencent réellement les aventures du futur soldat. Comme un Tintin version slave, notre brave homme s'en sort toujours indemne. Il esquive les questions assassines et trouve sans cesse des réponses qui déroutent les sbires de la monarchie. La commission médicale lui colle le diagnostic de crétinisme congénital et l'envoie à l'asile. De l'asile à la prison militaire, en passant par le commissariat, Zweig se tirera d'affaire grâce à sa bonhomie et à ses excès de zèle. Publié en 3 parties, l'Odyssée du brave soldat est malheureusement demeurée inachevée, son créateur étant mort prématurément en 1923. L'illustrateur Joseph Lada a d'ailleurs prêté son crayon pour donner corps à ce fameux anti-héros, ce qui le rend encore plus palpable et attachant. Azek a aussi publié plusieurs nouvelles disséminées un peu partout dans la presse pour gagner son CNED Liki quotidien. En 2024, la très respectable maison d'édition suisse La Baconnière nous a fait un beau cadeau en publiant un joyeux fatras de ses écrits de journaux. Le recueil « Le guide du rien et autres histoires » regroupe 25 textes tirés de l'édition intégrale publiée en tchèque. Le traducteur, Michel Chasteau, s'est fait un plaisir de se plonger dans cette dizaine de volumes et de nous dégoter les meilleures histoires et généreusement les convertir en français. Quel partage et quelle chance! Il faut imaginer un guide touristique sur le rien, un censeur hydrocéphale, un faux suicidaire, un prisonnier opportuniste, le tout auréolé d'un soupçon d'anarchie et de douce satire sociale. C'était « Ces auteurs qui tiennent la route », Yaroslav Azek, un texte d'Alexandra Guimond, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires.